Bienvenue à toutes et tous dans la revue de presse JV. Nous sommes le samedi 26 mai 1994 et nous allons parler de Nintendo. Car non, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce qu'on entend ici et là, ce qu'on peut lire dans certains magazines, ce qui se dit entre joueurs dans la cour de récré, non, Nintendo n'est pas mort. Car face à l'avalanche d'annonces, de nouveautés et d'informations qui proviennent de ses concurrents, que ce soit Sega, NEC, Sony et autres Panasonic, Nintendo opposait jusqu'à présent un silence, il est vrai, un petit peu pesant. Mais depuis l'annonce au mois d'août du projet Reality, pour nos amis anglo-saxons, prévu pour 1995, plus rien. Pas la moindre petite information à se mettre sous la plume. Mais soudainement, sa seigneurie Mario a décidé de s'adresser au bon peuple. Il faut dire que face à la multitude d'annonces des autres constructeurs, Nintendo faisait figure de parent pauvre, d'exclu de la bande. Bonne nouvelle, Nintendo n'est pas mort. Sans doute plus ou moins contrainte par la stratégie de communication de ses concurrents, comme je viens de le répéter au moins 50 fois, la firme du petit père Mario annonce un nouveau produit. À côté de cette information officielle, notre correspondant au Japon, Banana-san, a réussi à obtenir des informations officieuses, mais ô combien passionnantes, qui tendent à prouver que Nintendo n'a pas dit son dernier mot. Le projet que Nintendo, tout d'abord, a annoncé récemment, porte le nom de Super Game Boy. À entendre ce terme, la première chose qui vient à l'esprit, c'est la Game Boy Color. Il s'agit effectivement d'une Game Boy Color, mais pas celle que l'on attendait. En effet, la Super Game Boy est un adaptateur qui permet de connecter un jeu Game Boy sur une Super Famicom, une Super NES si vous voulez. Donc, c'est une cartouche Super Nintendo spéciale qui contient un adaptateur Game Boy. Et non un nouveau modèle de la console portable. Concrètement, on place une cartouche Game Boy dans l'un des côtés de la Super Game Boy, l'autre vient s'enficher dans le port cartouche de la Super Famicom, et la Super Game Boy affiche les jeux Game Boy sur la Super Famicom en utilisant des dégradés de 4 couleurs. Elle serait basée sur un processeur 16 bits fabriqué par NEC et compatible avec le 65C816. Des jeux sortiront bientôt, spécialement étudiés pour ce système, qui permettront d'afficher jusqu'à 256 couleurs, bien que le nombre de couleurs moyens réellement utilisées, selon certaines sources, devrait tourner autour de 130 teintes à peu près. Le premier de ces jeux sera un remake du célèbre Donkey Kong qui sera commercialisé en même temps que la Super Game Boy. Celle-ci devrait sortir aux alentours du 15 juin aux États-Unis et au Japon. Son prix est fixé à 7000 yens, ou 60$, ce qui nous fait environ 360 francs. Quel est l'intérêt de la chose? Je sais que vous vous posez la question. Et ben moi, je demande à voir. D'après Nintendo, l'intérêt est évident. D'abord, on jouera sur un grand écran, comparé à celui de la Game Boy en tout cas, et puis on pourra mettre la couleur dans le tristounet écran monochrome. On assignera du bleu à un niveau censé se dérouler sous les mers, du vert lorsque le héros se déplace en pleine Amazonie, etc. On pourra aussi customiser l'écran d'un jeu en modifiant la bordure, voire l'écran lui-même. Par ailleurs, on disposera d'une bibliothèque de graphismes où on pourra les créer soi-même avec un programme de dessin genre Mario Paint. Attendons le test complet de la bête, qui ne saurait tarder pour confirmer ou infirmer la première impression que donne la Super Game Boy, un gadget inutile qui enlève à la Game Boy sa raison d'être. Alors il semblerait aussi que Nintendo flirte avec la Jaguar, car toujours dans la série Les potins de ce cher Banana-san, il semble que Nintendo soit allé tâter le terrain du côté d'Atari. L'accord avec SGI concernant la mise au point des processeurs qui équiperont la prochaine console Nintendo serait en cours de renégociation entre les deux partenaires. Certaines voix se seraient élevées chez SGI contre cet accord, trouvant que la société cédait sa technologie 3D à un prix dérisoire. Mais son PDG souhaite que l'accord soit maintenu. Nintendo aurait alors discrètement sondé Monsieur Tramiel, le bouillant PDG d'Atari, au sujet d'un éventuel achat de la technologie Jaguar. Mais devant les exigences aberrantes de Tramiel, les discussions n'auraient pas duré très longtemps. D'ailleurs, il paraît que c'est Namco qui, en ce moment, serait en contact avec Atari. Et oui, car Namco a un poids financier suffisant pour se lancer dans la construction de consoles de jeux. L'achat de la technologie Jaguar pour le Japon, ou même pour le monde entier, ne serait pas une mauvaise affaire pour l'éditeur japonais qui rêve de reprendre la place de numéro 1 des jeux vidéo que Nintendo lui a soufflé avec le lancement de sa Famicom. Famicom qui, je le rappelle, est le nom de la NES au Japon. D'après certains des informateurs Banana-san, des informateurs placés chez Sega, le petit hérisson se ferait en ce moment du mouron. Les activités et recherches du petit père Mario en seraient la cause. Les ingénieurs de Nintendo travailleraient depuis plusieurs mois sur des algorithmes et des méthodes de compression de données. Ils auraient réussi à faire tenir 100 mégas sur une cartouche du type de celles qui sont employées dans la Super Famicom. Or, 100 mégas, c'est à peu près la place qu'occupent les 3 quarts d'un jeu sur CD-ROM. Même si la place disponible est beaucoup plus importante, hein, cela va de 570 à 640 mégas selon les modèles, les programmeurs ont généralement largement de quoi faire avec 100 mégas. Conclusion numéro 1, Nintendo devrait être apte à sortir sa Reality 64 bits moins chère que la Saturn. Utilisant des cartouches au programme compressé, elle pourrait se passer de lecteurs laser qui coûtent bonbons. Conclusion numéro 2, les performances de ces super cartouches seraient meilleures car les temps d'accès cartouche ROM sont quasiment instantanés, à la différence du CD-ROM que l'on pressent partout comme le NEC Plus Ultra, mais qui continue à poser pas mal de problèmes d'ordre technologique. Mais somme toute, cela ne devrait pas trop préoccuper Sega finalement, car si les ingénieurs de Nintendo ont été capables de le faire, il n'y a pas de raison pour que ceux de Sega n'y arrivent pas. Mais il y a autre chose, Nintendo serait en train de déposer un brevet sur le concept qui consiste à compresser des jeux avant de les faire tenir sur une cartouche. Juridiquement, il paraît difficile de protéger un concept aussi large, mais les juristes de Nintendo ont dû trouver une faille ou s'appuyer sur un ou deux des algorithmes qui leur permettent de verrouiller leur dispositif. Et c'est ça qui ferait peur à Sega, justement. C'est l'idée de devoir par la suite avoir à reverser des royalties à Nintendo si le hérisson se décide à utiliser le même principe de compression des jeux. Bref, affaire à suivre. Mais quittons Nintendo quelques instants et parlons des autres bruits de couloir qu'a capté ce cher Banana-san. Des bruits de couloir qui vont, qui viennent, ils sont partout et certains sont très intéressants, dont un de ces bruits de couloir concernant le projet FX. Un projet conçu par Hudson il y a maintenant un an, mais visiblement cette puce hein, serait dépassé technologiquement et donc NEC aurait décidé de revoir entièrement sa copie. Il semble qu'un seul des processeurs d'Hudson soit conservé dans cette nouvelle FX, NEC s'occupant de relooker le reste de la machine. Objectif, produire une machine aussi performante que la PlayStation et la Saturn. La guerre des consoles fait rage, tout le monde veut sortir sa machine, hein, c'est complètement incroyable. Concernant la Saturn hein, de Sega, des spécifications en mouvement perpétuel, ça bouge hein, chez Sega, pas une semaine sans que Sega ne décide d'une modification, le plus souvent mineure, dans les spécifications de sa future console 32 bits. Ainsi, il aurait été décidé d'abandonner la technologie de compression MPEG pour une technologie similaire Made in Sega, une technologie maison, vous l'aurez compris. La première solution coûtait, semble-t-il, trop cher car Sega aurait dû verser des redevances, et ça, dès qu'on tape dans le porte-monnaie, c'est sûr que ça fait ronchonner. De même, Sega étudierait la compatibilité de la Saturn avec le CD vidéo, qui permettrait d'enregistrer des images de meilleure qualité que celles d'un magnétoscope sur un CD-ROM. Sony aurait décidé que sa PSX, hein, donc la future PlayStation, serait aussi compatible avec ce format qui est en train d'être lancé au Japon à grand renfort de publicité. Savez-vous ce qu'est WowWow ? Bah WowWow, c'est une chaîne de diffusion de télé privée par câble et satellite au Japon et c'est même la plus populaire hein, des chaînes diffusées par ce biais-là. Sega pour sa Saturn et Panasonic pour sa 3DO Real viennent de signer un contrat pour diffuser sur ce média les futurs programmes destinés à leur prochaine console. De son côté, Nintendo a carrément racheté une station de diffusion satellite, Sentoga. Pourquoi faire petit quand on est persuadé d'être le maître du monde ? Prochaine étape, Nintendo rachètera-t-il le Cap Canaveral ? Alors la guerre des consoles, c'est très bien, mais il ne faudrait pas également oublier que le marché de l'arcade est toujours très vivant au Japon, car comme chaque année, se tient à quelques dizaines de kilomètres de Tokyo, l'AOU, le salon des jeux d'arcade, l'occasion de prendre la température du marché de l'arcade, des innovations technologiques présentes et à venir, bref, d'être là où ça se passe, au moment où ça se passe. Alors, est-ce que la crise économique commence à atteindre le Japon, car notre chère Banana nous dit que si le salon était aussi intéressant que d'habitude, les stands des exposants, eux, étaient moins spectaculaires que par le passé. Certains exposants ne montraient aucun jeu nouveau depuis le dernier AOU, il y en a deux par an, mais d'autres dévoilaient de petites merveilles. Parmi les nouveautés les plus intéressantes, on pouvait admirer le nouveau Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 X, que nous vous avions présenté déjà le mois dernier, pour ceux qui s'en souviennent. Donc ça, c'est chez Capcom, qui a paru quand même décevoir un petit peu la foule à vide d'innovation. Sega exposait le très attendu Daytona USA, censé concurrencer Ridge Racer dans les salles d'arcade japonaises. Konami montrait son ultime Parodius, qui a été consacré meilleur jeu du salon selon l'enquête réalisée auprès des visiteurs. Enfin, Taito dévoilait des prototypes de jeux d'arcade qui permettaient d'obtenir un effet de relief saisissant sans avoir à recourir à des lunettes spéciales. Après une série de délires au dernier AOU, Sega et son espèce d'activator pour jouer à Dragon Ball Z, Human et son détecteur de mensonges, etc., celui-ci marque un retour aux sources et aux bonnes vieilles valeurs traditionnelles, c'est-à-dire les simulations de course, des jeux de bagnole en veux-tu, en voilà, des jeux de baston, des shmup et autres beat'em up. Certaines tendances révélées lors du dernier salon se confirment, comme le passage de presque tous les éditeurs aux cartes d'arcade 32 bits. Seules 3 compagnies exposaient des bornes avec des CG, c'est-à-dire des computer graphics, des graphismes réalisés par ordinateur, Sega le précurseur avec Daytona USA, Namco avec son Ridge Racer et Taito avec son Virtua Cube X et City Diver. Ce type de jeu fait appel à une technologie de pointe et leur développement coûte extrêmement cher. Ainsi, seules les plus grosses sociétés et celles qui ont su investir en recherche et développement présentaient de tels projets. Des ténors tels que SNK et Capcom semblaient un peu dépassés par l'intrusion de ces nouvelles technologies qu'ils ne paraissent pas encore maîtriser, visiblement. Malgré tout, une belle actualité en ce moment pour le jeu vidéo japonais. Tout ceci nous promet de futures générations de machines complètement explosives. Comptez sur moi pour vous tenir au courant de tous les rebondissements en la matière. Même si moi, je fiche quand même mon petit billet sur la 3DO, je pense que ça va faire très mal. Enfin, ceci dit, c'est juste mon avis. L'année n'est pas encore terminée, bien sûr. Donc là, nous étions dans un bon vieux Console Plus de 1994, le numéro 34 plus exactement. Merci encore à vous, bye bye.